affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Comme vous le savez, notre époque porte un regard assez sombre sur elle-même. Le ton général est plutôt à la gravité, à l'inquiétude. Parfois saisie de mélancolie, notre époque se trouve terne. Et si elle se trompait sur son compte? Et si elle se dévalorisait? Et si, au contraire, elle était follement romanesque? Et si tout n'était finalement qu'une question de regard? C'est ce que nous sommes conduits à penser en nous plongeant dans les carnets de bal que depuis les années 90, l'écrivain Marc Lambron consacre en guise de chronique du temps présent à notre époque et dont le quatrième volume vient de paraître. Nous avons la joie de recevoir Marc Lambron avec nous, avec le souhait qu'il nous guérisse de cette mélancolie française grâce au regard qu'il porte sur cette époque finalement plus scintillante qu'il n'y paraît. Est-ce l'objet de votre ouvrage, monsieur ?
C'est l'objet de mon ouvrage, mais nous tombons en un jour où je vais devoir ouvrir cette conversation avec une note de tristesse. Je ne peux pas ne pas parler d'Yves Pouliquen, de l'Académie française, qui vient de disparaître et qui était justement un exemple, un beau profil de l'esprit français. Comme vous le savez, c'est ce fils d'instituteur breton qui était devenu un grand praticien, un grand chirurgien de l'ophtalmologie, un maître dans son domaine, mais qui incarnait aussi la figure très française de l'honnête homme, avec un universalisme d'intérêt qui s'alliait à une grande urbanité. C'était un homme qui mettait son élégance dans la courtoisie. C'était aussi un travailleur très, très engagé dans les affaires académiques. Comme vous le savez, c'est lui qui a présidé à la confection et l'édition de ces fascicules « Dire ou ne pas dire », qui traitent de l'usage et du bon usage. C'est lui, surtout, ces 3 ou 4 dernières années, qui avait été le maître d'œuvre de la mise en ligne du dictionnaire de l'Académie, de ses 9 éditions, ce qui n'était pas un mince travail. C'est aussi lui qui avait redonné du lustre et de la vie à la Fondation Saint-Gerre-Polignac, à ses soirées musicales et aussi à ses jeunes musiciens qui sont en résidence. Voilà, c'est cette figure d'Yves Pouliquen qui nous manquera cruellement. Et peut-être une façon de lui rendre hommage, parce que il avait la politesse de l'allégresse précisément, c'est de retranscrire, enfin de répéter une anecdote, car c'était un conteur, un anecdotier, qui m'avait confié il y a environ un mois, racontant la scène suivante. Il avait pour patiente à la fois Maribel et Arletty, à la fin des années 60. Il se trouve que Maribel était une gaulliste fervente et que Arletty avait eu quelques problèmes après l'occupation. Donc elles étaient très amies avant-guerre, mais s'étaient éloignées après. Et Pouliquen, voyant sur son agenda qu'il allait recevoir l'une puis l'autre le même jour, les appelle l'une et l'autre pour voir, les sonder, voir si éventuellement elles accepteraient de se parler ou voire de se réconcilier dans son cabinet. Les deux applaudissent. Donc il les met en présence. Elles se sautent au cou, dit-il, encore une figure de la France. Et Arletty dit, maintenant qu'on est là, on devrait jouer les deux orphelines. Voilà, c'est une historiette de d'Yves Pouliquen, c'est une chose vue. C'était aussi ce qu'on appelle un parisien, au très bon sens du mot, c'est-à-dire que précisément, il jetait sur les comédies humaines un regard à la fois aigu et amusé. Il répondait à ce critère académique qui est la bonne compagnie. C'était un ami et un homme de bonne compagnie.
Écoutez, je suis navré évidemment par cette nouvelle que je viens d'apprendre à l'instant. En revanche, cette anecdote de réconciliation sous son égide nous mène à un des sentiments qui nous étreint en nous plongeant dans votre livre, c'est que c'est justement un désir de réconciliation, et notamment avec l'époque. Est-ce que ça faisait partie de vos intentions, nous réconcilier avec cette époque parfois un petit peu rude ou...
Bon, c'est-à-dire que je suis, pour ma part, pas fâché, et je n'ai pas non plus de propos didactiques, c'est-à-dire que je n'ai pas ni titre ni vocation à évangéliser mes contemporains, mais je crois que, voilà, que chaque auteur creuse son sillon, et qu'en réalité... une époque, elle est aussi, elle existe autant par ce qu'elle est que par la façon dont on la regarde. Et après tout, considérer les années 30 du XXe siècle, qui sont des années tragiques de montée vers la catastrophe, ça n'a pas empêché Édouard Bourdet, Sacha Guitry, Laure Bernstein, là je parle du théâtre français et parisien, de donner des pièces de théâtre qui honoraient précisément cette tradition primesautière ou joueuse qui est un antidote, en effet, à toutes les tristesses. Et je crois d'ailleurs que notre époque majore en réalité ces problèmes. Il y a même une certaine indécence, à mon avis, à le faire, à la fois dans l'espace et dans le temps. Dans le temps, alors je vais commencer à prêcher, mais revenons un siècle en arrière, c'est-à-dire nous sommes en 1920, nous sortons d'une hécatombe, 1,5 million de morts, dans un monde où les assurances sociales sont balbutiantes, où la pénicilline n'existe pas, où la mortalité infantile est considérable, où l'histoire est tragique, et où le stoïcisme des hommes, des femmes de cette société est absolument considérable. C'est-à-dire que l'ère de la plainte n'est pas encore ouverte. Maintenant, nous y sommes. Plainte, victimologie... hypertrophie du moi, toute chose dont je suis étonné d'ailleurs que dans les familles françaises, parce qu'il suffit d'avoir eu un grand-père, un arrière-grand-père qui ait ressenti cela pour se dire que nous serions bien inspirés de faire doucement les basses, comme on dit. Et puis dans l'espace, parce que si vous voyagez un peu, d'abord vous saurez que la France reste depuis des années maintenant la première destination touristique mondiale, c'est-à-dire qu'il y a entre 86 et 89 millions d'étrangers qui viennent sur notre territoire chaque année. Donc pourquoi est-ce que le pays de Cocagne, aux yeux des tiers, est habité par des déprimés? À mon avis, c'est une des dimensions de l'équation française. C'est une question que je poserai volontiers à l'entrée de l'ENA, par exemple, à nos futurs hauts fonctionnaires, parce qu'il y a là une sorte de mystère ou de complaisance. Et justement, le regard, c'est aussi une façon de ne pas acquiescer ou de ne pas succomber à ce dolorisme qui, en réalité, est autotoxique. Parce que si vous n'êtes pas masochiste, vous allez essayer de cultiver en vous les toxines ou les endorphines plutôt de la l'allégresse, plutôt que les pharmacopées du blues national. Voilà. Ceci pour arriver à ce titre Carnet de bal, au fond, que j'ai choisi il y a assez longtemps. Puisque, alors, l'idée du carnet de bal, c'est quelle danse avons-nous dansé concrètement? Alors, le premier paraît en 92. On peut le dire d'une manière triviale et d'une manière plus ornée. Si je le dis d'une manière triviale, ce serait un recueil d'articles. Mais, à mon avis, c'est faire bon marché de l'esprit qui préside à ça. D'abord, il n'y a pas que des articles, il y a des nouvelles, il y a des portraits, il y a des textes politiques également, enfin de toutes sortes, de la critique d'art de plus en plus. Enfin, bref, c'est un pot-pourri, c'est un recueil de ce qu'on appelait autrefois des mélanges, et toute proportion gardée, Paul Valéry, quand il publiait ses variétés, c'était la mise en forme de carnet de l'air du temps qu'il avait tenu au fil de la plume ou Sartre, qui a tout le cycle, il y a une dizaine de tomes de ce qu'il appelait ses situations. Alors, je ne vais pas me comparer à ça, mais c'est l'idée. Alors, concrètement, tous les 7 ou 8 ans maintenant, nous en sommes donc au quatrième, je regarde ce que j'ai pu écrire dans la période sur le mode du bref, parce que ce sont des textes relativement courts. Beaucoup, en réalité, ont paru dans des gazettes ou dans des revues. Donc, j'opère un tri. Je m'aperçois qu'en fait, il y a des logiques thématiques qui ne me sont pas forcément visibles au fil des années. Et je vois mon propre livre, en quelque sorte, se dessiner dans cette espèce de rétrospection légère qui, en même temps, oui, donne une sorte de comme une empreinte digitale, comme un capteur de ce qui a pu se passer pendant ce septennat, puisque c'est une sorte de septennat littéraire, en gros, que c'est Carnet de Bâle. Donc là, c'est le quatrième. Et eh bien oui, c'est à vous de me dire ce que, dans cet album de variété, vous discernez. Alors, ce que vous me dites, c'est que, précisément, il y a une optique. Et que l'optique, c'est de ne pas abdiquer devant les sirènes de la tristesse, et au contraire, d'angler différemment. Mais ça, c'est une affaire, au fond, de caractère, de presque de pulsion. Et il se trouve que je n'aime pas m'empoisonner. Donc, pas trop d'injections de curare. Et amusons-nous, en quelque sorte. En tout cas, je pense que l'optique allègre, presque sémiologiquement, est une façon de regarder les choses, peut-être parfois de les voir sous l'angle de l'ironie ou de la dérision, et que peut-être l'ironie peut être porteuse de vérité, plus que des grilles d'interprétation qui sont souvent courtes, parce que moutonnière et un peu voilée ou obscurcie précisément par une pellicule de tristesse. Et il y a une autre façon, sans doute, de lire le monde, de lire ce qui nous arrive, de lire le quotidien. Alors, je ne crois pas être le seul dans cette veine. Enfin, il est vrai que j'évolue quand même parmi un certain nombre de corbeaux mazoutés, si vous voulez, et je n'aime pas trop le mazout, et le lugubre corbeau d'Edgar Poe, enfin, traduit par Baudelaire, n'est pas non plus mon animal préféré. Vous voyez d'ailleurs que je suis venu dans ce studio, puisque nous sommes en ce moment en commission, en train de préparer les prix d'Académie. Il y a un prix animalier, figurez-vous, parmi la cinquantaine de prix que nous décernons chaque année. Et on m'a affecté un livre sur la loutre d'Europe, animal méconnu, peut-être blâmé. Et ben, je vais apprendre des tas de choses sur la loutre. C'est peut-être aussi une bonne optique, finalement. Par exemple, la loutre, je viens de le voir, se reproduit de façon diurne. C'est donc un animal qui dort la nuit et qui s'égaie dans la journée et qui fabrique ainsi des petits loutrons. Bon, enfin, je ne vais pas vous faire une conférence sur la loutre.
Vous faites décidément votre miel de tout.
Voilà, même de la loutre d'Europe.
Vous avez utilisé le terme d'ironie et c'est ce qui tranche dans un ensemble de productions actuelles. On pourrait dire plutôt marqué par le ricanement. Votre livre est entièrement exempt de ricanement. Il est plutôt dans l'ironie bienveillante.
Oui, parce que alors d'abord la bienveillance, oui, ça c'est sans doute parce que je suis un petit provincial, un Lyonnais, qui est une ville du modérantisme politique, qui est une ville du bien-vivre culinaire, qui est une ville centriste. Donc peut-être suis-je un esprit centriste. Ce que Claudel disait de Gide, c'est un esprit sans pente. Bon, je crois que j'ai quand même quelques pentes, oui. Oui, la question c'est, au fond, oui, pourquoi cette... Vous avez raison. Alors, bah, ouais, en effet, ça c'est intéressant pour moi, c'est quel est l'usage nocif de la dérision. Et je suis frappé par, depuis 20 ou 25 ans, parce qu'on pourrait appeler, de manière polémique, l'esprit Canal+. C'est deux choses. Premièrement, c'est l'amnésie historique. C'est-à-dire, le Monde a été créé en 1950. Elvis Presley, c'est le Jurassique. Les Beatles, c'est le Crétacé. Autrement dit, annulation de toute grandeur antérieure ou vécue de l'histoire sur le mode de la repentance. C'est-à-dire que nous sommes coupables pour les autres. Et primo. Et deuxièmement, à la faveur de cet arasement, parce que toute stature de grand personnage, par exemple, qui pourrait nous faire honte, se trouve ainsi annulée. Et annulée au profit de quoi ? D'une dérision qui s'exerce vis-à-vis des figures contemporaines, qui là aussi pourrait éventuellement ne pas consonner avec la doxa ou avec cette habitude qui est celle de la vanne, c'est-à-dire tout amenuiser pour que rien ne dépasse. Donc nous avons affaire à des givaros passant par justement les armes du rire, de la parodie, de la dérision, de la guignolade. Et je pense que pas mal d'écrivains d'ailleurs ont à se situer par rapport à ça. Parce que évidemment, si vous êtes une femme un peu doloriste qui écrit avec 400 mots, vous aurez, ou un homme d'ailleurs, parce que sinon je vais me
attention,
faire...
Attention,
attention. Soyons paritaires. Là, vous serez loué, surtout si vous imitez Philippe Djian, qui lui-même imite des écrivains américains des années 50. Bon, bref. Alors, il y a ça qui est... Bah, c'est une guerre du goût, comme dirait Philippe Solers. Et écrire, c'est quand même se situer dans cette guerre du goût. Une des premières options, d'ailleurs, étant celle du style, c'est-à-dire que dans la panoplie des styles, de la stylistique possible, comment va-t-on écrire ? Et écrire, c'est voir, c'est-à-dire c'est saisir, c'est-à-dire les mots donnent le spectre ou donnent les composantes du radar avec lequel vous allez essayer de percevoir votre époque.
Alors précisément, à rebours de ce ricanement ou de cette réduction de tête, ce qui est plaisant, c'est que le livre est rempli d'exercices d'admiration. J'ai dit tout à l'heure que vous étiez bienveillant,
oui.
C'est au-delà, c'est-à-dire que vous nous donnez à admirer plutôt qu'à nous hausser du col en rabaissant, à la fois les grandes figures du passé, mais aussi celles du présent. Alors je vais vous pousser à nouveau à être didactique, mais ça semble quand même un parti pris de choisir d'une part le bon côté des choses et de diriger le regard vers ce qui est beau, ce qui est grand et qui finalement nous élève justement parce que c'est plus grand que nous.
Bah, ça c'est une prédisposition d'humeur, c'est-à-dire est-ce qu'on préfère dire oui ou dire non ? Pour moi, dans ma diététique intellectuelle, le oui est toujours plus gratifiant que le non. Parce que si je deviens l'esprit qui toujours nie, comme dans le Faust de Goethe, une fois encore, ça va être autotoxique. Alors que le fait de dire oui, c'est-à-dire de tout de même d'ouvrir les yeux sur le monde, et dans la polychromie, dans la fantasia des apparences, des événements, des personnages et des arts, il y a toutes sortes de raisons de s'enchanter ou de réenchanter le monde par la façon dont on le considère et dont on en jouit. Donc, c'est plutôt mon approche, c'est-à-dire, à la limite, je serais enclin à tout entendre et à tout voir comme une musique, ou à rechercher la musicalité, y compris d'une image, y compris d'une nuance de climat ou de température, l'idée que la vie chante et qu'on peut la transcrire en partition. Elle nous dicte, au fond, des partitions heureuses, où elle peut le faire.
Dans cette invitation à considérer notre époque, vous avez parlé à propos de ce fameux esprit canal, même si, bien entendu, on ne va pas s'acharner sur cette chaîne.
Non, je le dis de façon générique.
Ça déborde, bien entendu, très largement. Il y a aussi l'amnésie. Là aussi, c'est la démarche inverse, c'est-à-dire que dans l'ensemble de vos chroniques, ce qui est absolument frappant, c'est que pour toucher à la vérité d'aujourd'hui, vous faites appel à un jeu de correspondance permanent avec le passé, tant et si bien que on se rend compte que loin d'être dans une époque de rupture comme le voudraient certains, Nous ne sommes pas non plus dans un aboutissement, mais peut-être dans une forme d'éternel recommencement ou dans une pérennité. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui tient de l'Ecclésiaste ou d'Héraclite, je ne sais pas, entre les deux d'ailleurs.
Bah, c'est-à-dire que
Un nouveau ou un éternel recommencement, c'est peut-être la même chose d'ailleurs.
Vous pouvez dire les deux, parce que l'Héraclite, c'est une approche fractale du monde. Et de l'autre côté, bah, vous avez le rien de nouveau sous le soleil, mais le fait que ce rien de nouveau, à supposer qu'il soit un tel, se perpétue, prouve encore qu'il y a quelque chose sous le soleil. Ce qui m'intéresse, je dirais, il y a deux choses. Bon, partons de l'idée de décryptage. Vous avez, je sais pas, une actrice, vous avez un livre, vous avez un tableau. Qu'est-ce qu'on va en percevoir et qu'est-ce qu'on peut traduire de ce qui nous inspire, de ce que l'on ressent? Alors, moi, je dirais que dans ce que j'écris, me semble-t-il, il y a le croisement de deux écoles ou de deux réflexes. D'abord, et en ça, je serais assez enfant des années 70, de quelqu'un qui a suivi les cours de Roland Barthes au Collège de France, il y a sans doute une habitude sémiologique, c'est-à-dire un signe dit quelque chose, exprime quelque chose, et l'intellectuel, c'est justement celui qui va essayer de le rendre intelligible. Donc il y a sûrement cette dimension-là, ce que Barthes faisait avec le beefsteak frites ou avec la calandre de déesse ou avec le visage de Greta Garbo, par exemple, pour prendre quelques-unes des entrées de ces mythologies. Et puis, je dirais que je croise de manière presque automatique, parce que c'est dans mon logiciel personnel, ce décryptage de l'immédiat avec ces syntagmes et paradigmes, comme on disait quand on était cuistre. L'horizontal, c'est le présent, et le vertical, c'est la durée. Et il me semble qu'une façon que nous serions bien inspirés, je crois, de pratiquer tous et toutes, c'est, en tout cas, mon réflexe, c'est de toujours mettre en perspective, sur trois générations, ce qui peut arriver. Et au moins sur trois, et plus, si on a une profondeur de champ historique, comme bien des membres de l'Institut l'ont, jusqu'au Moyen-Âge et même jusqu'à l'Antiquité gréco-latine, du côté des inscriptions et belles lettres. Et bien, évidemment, si vous raisonnez verticalement, et aux proches, parce que trois générations, c'est vos parents et vos grands-parents, eh bien, à mon avis, ça éclaire et ça confère du sens. Alors que si vous êtes le nez sur la vitre, évidemment, il y a des choses qui vont totalement vous échapper. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée. C'est quel que soit l'objet, il y en a de futiles, il y en a de plus graves, quelle que soit la personne ou l'ouvrage ou l'œuvre de l'esprit, c'est essayer comme un réflexe finalement de travailler en ayant incorporé ces deux axes comme une sorte de nature ou de réflexe.
Nous sommes tous des héritiers finalement, même si aujourd'hui on voudrait se faire croire qu'on se crée nous-mêmes. Nous ne sommes que des héritiers.
Alors oui, il y a le fantasme maintenant, en effet, de l'auto-engendrement, ou en tout cas de la prolongation. C'est-à-dire que c'est l'histoire du transhumanisme. C'est l'idée qu'on irait vers des corps et des existences qui seraient appareillées. Et d'ailleurs, pourquoi pas? Parce que quand on vous pose un pacemaker, quand on vous pose une hanche artificielle, nous sommes d'ores et déjà des êtres reconditionnés. Jusqu'où? Et Michel Serres, par exemple, avait une réflexion qui lui était tout à fait enthousiaste des nouvelles technologies. C'est d'ailleurs assez intéressant, entre parenthèses, à l'Académie française, parce que c'est une compagnie polychrome, et Alain Finkielkraut considère que l'Internet, c'est la poubelle de l'univers, et Michel Serres considérait, au contraire, que c'était la bibliothèque de Babel. Ils ont tous les deux raison. Moi, je vous dirais, parce que j'ai encore une troisième option. Et Michel Serres disait, vous pouvez avoir dans la paume, avec un téléphone intelligent, le contenu de la Bibliothèque nationale de France, et bien plus. Parce qu'en réalité, le savoir universel, il est maintenant condensé dans une machine intelligente. Ce qui, d'ailleurs, peut créer une paresse. Parce que dès lors que la mémoire devient une prothèse, ou une mémoire déléguée, ou une mémoire détachée dans un objet, vos propres neurones seront moins enclins à engrammer, à incorporer de l'information. Puisqu'on est sur le sujet, pour moi, c'est l'usage de la télématique, c'est exactement un autoportrait. Pour moi, l'Internet, c'est un autoportrait, c'est-à-dire, c'est un marché. si vous regardez ce que vous avez consulté dans la semaine, vous avez très exactement la somme de vos intérêts. Et moi, je veux dire que je m'en sers beaucoup, mais comme un, plutôt comme un bibliophile, ou en tout cas comme une source de savoir, de vérification, combien dans, dans ce carnet de balles de fêtes, de dates, dates de naissance, ont été corroborées par la consultation de... par la consultation d'une archive qui est une archive télématique. Voilà. Voilà. Cela dit, ce n'est pas un livre de science-fiction ni un traité de transhumanisme. C'est une promenade.
Oui, et puis, vous avez dit que c'est un miroir, peut-être le miroir de l'époque. C'est aussi aujourd'hui, à tout le moins, un outil de narcissisme. Et votre ouvrage est tout le contraire d'un ouvrage narcissique, puisque c'est un regard porté sur l'extérieur. Systématiquement porté sur l'extérieur et dirigeant le regard des lecteurs non pas sur eux-mêmes dans un exercice d'introspection, mais comme je disais, sur des exercices d'admiration. Alors justement, vers quelle figure souhaiteriez-vous prioritairement que nous portions notre regard dans ces exercices d'admiration ?
Écoutez, c'est comme vous voulez, mais en effet, comment dire, je me trouve assez vite à court d'intérêt si je me considère seul. Heureusement, il y a le reste du monde. Donc, c'est vrai, vous saluez là mon altruisme involontaire. C'est-à-dire que je trouve plus de bénéfices psychiques à étudier, à considérer les autres, que dans mon propre égo. Et d'ailleurs, c'est un reproche que j'ai entendu sur ce volume, parce qu'il y a deux personnes qui me disent « Mais les textes qu'on aime... » Ce sont ceux que tu parles de toi. Je crois qu'il y en a deux. Ou un texte sur Frigide Barjot et un texte ultime, le dernier du recueil, où je raconte comment, à l'âge de 16 ans, j'ai fréquenté un meurtrier de mon âge. Mais ce n'est pas un journal, justement. Ce n'est pas un journal au sens égolâtre du mot. C'est autre chose.
Une chronique.
C'est une chronique ou c'est une espèce de puzzle qui, par chronique, en effet, compose plutôt un... la liste de mes envies, comme on dit, ou le compendium de mes intérêts. Il faudrait d'ailleurs dire un mot, parce que j'enchaîne là-dessus, sur le fait que beaucoup de ces textes ont paru dans Le Point, hebdomadaire dont je suis un collaborateur depuis 1986, et ce que peut être le rôle de la commande dans le fait d'écrire. Parce que je crois que beaucoup de ces textes n'existeraient pas s'ils n'avaient pas été déclenchés ou provoqués par la commande. Par exemple, il y a un texte qui correspond à un voyage qui a été agréable pour moi. Le Point m'a envoyé en Californie pour rencontrer le pape de la culture tiki. La culture tiki, ce sont toutes les dérivations de la culture océanienne dans la culture populaire américaine après 1945, avec les GIs qui rentraient du Pacifique et toute cette érotisation de la tahitienne et ces clubs où l'on buvait des cocktails, les Mai Tai, et ces icônes ou ces dieux tiki, justement, océaniens qui procuraient un exotisme agréable à la classe moyenne. Bon, américaine. Et ben, voilà, je me retrouve à Los Angeles pendant deux jours, trois jours, avec celui qu'on considère comme le pape du Tiki, Sven Kirsten, et qui me montre, qui se définit lui-même comme un archéologue urbain, et qui me promène à travers les vestiges, les stigmates, les lieux de la culture Tiki en Californie. Bon, évidemment, je ne serais jamais allé de mon propre chef enquêter sur ce sujet. Donc la commande, c'est important, parce que ça vous déclenche, parce que ça vous provoque. Donc là, je serais prêt à faire un éloge de l'hebdomadaire, de l'hebdomadaire de presse, en général. Et deuxièmement, alors il y a aussi pour moi un autre jeu d'écriture dans ces carnets de balles, c'est que je sais très bien que ces textes sont frappés ou devraient être frappés de péremption, dans la mesure où quand vous écrivez dans un hebdomadaire, au bout de la semaine, on jette l'hebdomadaire et on passe au suivant. Et donc, une de mes intentions d'écriture, quand j'écris dans la presse, c'est en réalité de viser le support suivant. Autrement dit, il y a le papier éphémère qui est celui du journal ou de l'hebdomadaire, et puis il y a la possibilité, ou non, de faire passer tel ou tel texte sur un support plus pérenne, Ce qui suppose qu'il supporte la précisément autre chose qu'un flash photographique et qu'il aille s'inscrire dans un album, voire une sorte de mini-archive. Donc il y a aussi pour moi un jeu. Autrement dit, j'essaie de donner le meilleur quand j'écris dans la presse pour que ça puisse tenir le coup hors de la semaine où ça paraît.
Vous avez parlé de la culture tiki, et c'est heureux car il y a effectivement un regard un peu ethnologique, c'est un peu de l'ethnologie de la société, j'allais dire actuelle, mais en fait dans...
Ah ben le tiki, c'est comme si Lévi-Strauss étudiait Disneyland, un Disneyland maori pour classe moyenne américaine.
Ouais. Aujourd'hui on appellera ça de l'appropriation culturelle, non ?
Oui, on peut, mais en même temps c'est un métissage, parce que c'est évidemment une sorte de baroque, de kitsch. Ce qui est intéressant là-dedans, évidemment, c'est le kitsch américain, qui procède par des hybridations, par des appropriations assez pittoresques ou naïves d'une culture exotique. Mais ça donne à la fin Frank Sinatra qui boit un Mai Tai, c'est-à-dire un cocktail exotique, dans un bar avec des fausses palmes et des vaïnés du Minnesota déguisés en Tiki Girl.
Est-ce que vous pensez que, quand je parlais de l'époque et de sa gravité, et parfois même de sa lourdeur, on a l'impression néanmoins qu'il reste dans votre livre une trace... une forme de frivolité et d'amusement, de joie de vivre, qui était plutôt celle des années 50-60, comparativement à la nôtre. C'est-à-dire qu'on pouvait, par exemple, le rapport au sexe ou les rapports entre les sexes sont quand même plus légers et joyeux que ce qu'on peut lire habituellement.
Mais
pour ne prendre qu'un exemple.
Qui était la façon du 18e siècle de, quand même, des incroyables, des merveilleux... du directoire, du palais royal, où le conseil d'État, où je sers encore à ses bureaux, et qui a été un des grands lieux de la galanterie française, des années folles, on pourrait dire, des années 20, de ce Paris cosmopolite, où, qui était une fête, comme dit Hemingway, et en effet, d'une certaine Dolce Vita... d'après-guerre, je dirais pas ça de Saint-Germain-des-Prés, parce que là, je pense qu'il y a quand même du lugubre qui s'installe, même si on danse dans les caves. Mais étrangement, dans ma vie, enfin, parenthèse, mais j'ai eu le sentiment, au moins à deux reprises, de me retrouver dans des circonstances, en effet, assez festives, nocturnes, qui ressemblaient à la façon dont on avait mythologisé déjà des fêtes, des fêtes mouvantes, comme disait Hemingway, du XXe siècle. La première fois, c'est en 78-79, là, je suis étudiant à Paris, j'arrive à Paris, de ma province, et c'est l'époque du Palace. Je crois qu'il ne faut pas minorer ce qu'a été l'importance de ce lieu de mélange, de cet ancien théâtre converti en boîte de nuit, mais plus que ça, qui a été un peu la version warholienne et parisienne d'une certaine façon d'être dans la nuit, qui, à mon avis, n'était pas en deçà de certaines époques festives. Et puis, il se trouve qu'étant en stage en 1983 en Espagne, sans avoir la moindre idée de l'endroit où j'allais tomber, à Madrid, je tombe en pleine Movida. Et la Movida qui, elle-même, aujourd'hui, est devenue objet de musée et inscrite dans la lignée des mythologies festives et nocturnes. Donc, ça ne m'installe pas dans l'idée que c'était mieux avant, puisque... on peut être contemporain d'époque qui, aujourd'hui mythologisée, avait un éclat, avait un brio, avait une profondeur, finalement, peuvent consonner avec ces époques dont vous parlez. Donc pourquoi y aurait-il reddition à un masochisme vital, alors que, après tout, ça fait 80 ans que nous vivons en paix, nous sommes dans une parenthèse enchantée dans l'histoire de l'Europe, et il y aurait toutes les conditions, c'est pour ça que c'est une affaire de regard, pour dire que nous nous en tirons pas si mal. Et puis alors, attention...
C'est pas très français de se satisfaire de s'en tirer pas si mal.
Oui, bah justement, parce que ça c'est du narcissisme national, mais si nous avions le... c'est comme disait Gombrowicz, être français, c'est précisément prendre en considération autre chose que la France. Si vous considérez la planète aujourd'hui, alors certes, réchauffement climatique, certes, retour de certaines nations belliqueuses, enfin, somme toute, la mortalité infantile est à peu près réduite, Les pandémies, on le voit en ce moment, sont immédiatement sous contrôle. L'espérance de vie a cru sur l'ensemble sur notre Terre. Y a eu des pays dits autrefois du tiers-monde qui ont connu ces dernières années des croissances à 10%, quand nous sommes à des croissances en France à entre 0,8% et 0,5%. Donc en effet, nous ne sommes peut-être pas les heureux du bal. Sur l'ensemble de la planète, ça irait plutôt mieux, si vous voulez. Il y a plutôt moins de massacres. On ne compte plus les morts par million dans les conflits nationaux ou internationaux. Et c'est pour ça que moi, je considère que ma génération, à ce jour, s'en sera tirée à très bon compte et qu'elle aurait tout à fait toutes les raisons de ne pas pleurnicher.
Toutefois, vous consacrez quelques belles pages à votre ami l'écrivain Daniel Rondeau.
Oui.
Semble-t-il, lui, il est quand même saisi par ce désir de grandeur français qui, après tout, oui, fait partie de notre logiciel.
Oui, ça, je ne dis pas le contraire. Au contraire, voilà. c'est précisément pas un homme de l'amenuisement ou de la résignation. Alors, Daniel Rondeau, il porte aussi, depuis longtemps, il est porteur d'un virus, il est porteur sain d'un virus national. J'appelle ça le syndrome de Lafayette. Ou le syndrome Lafayette, qui fait partie de notre génome, qui est cette idée qu'il est dans l'honneur français d'aller se porter au-devant des révolutions ou des libérations en cours, parce que l'universalisme français, précisément, a ses soldats qui se doivent d'y... Alors je dis Lafayette parce que, évidemment, guerre d'indépendance américaine en 1776, enfin un peu avant, un peu après... Mais vous voyez bien qu'au XXe siècle, les volontaires français de la guerre d'Espagne, les French doctors, comme on dit au moment des boat people vietnamiens, l'interventionnisme d'un certain nombre d'intellectuels français en faisant pression sur les politiques au moment des guerres balkaniques des années 80-90, et même en Libye assez récemment. Donc je dirais que Rondeau, il respire l'air du grand large, et qu'il a été ambassadeur à Malte à un moment où les migrants commençaient à affluer et à faire naufrage en Méditerranée. Il a été ambassadeur auprès de l'UNESCO, qui est quand même une institution également internationale et universelle. Donc il est tout à fait dans cette autre... Chateaubriand disait « La position défensive est antipathique au caractère français. » Et oui, je crois qu'idéalement, dans la légende nationale, c'est la position offensive. Y compris au bénéfice des tiers, qui devraient nous définir. C'est pour ça que je pense qu'une partie du mal-être français, c'est ça. C'est qu'est-ce que c'est qu'un... Ça a à voir quand même avec évidemment une nostalgie de grandeur. Ça, je crois que le mot porte, et que le deuil, un certain deuil qui s'ouvre en 1940, qui va avec les décolonisations difficiles, dans plusieurs cas au moins. Donc il y a eu ce sentiment, moi je trouve ça fait légitime, qu'on ait décolonisé et qu'on ait rendu, qu'on ait appliqué au fond nos propres principes à des pays qui étaient sous le joug. Mais... Je crois que ça compte. Et puis, je suis très étonné par ce qu'on appelle les avantages acquis, c'est-à-dire comme si des systèmes de protection qui ont été mis en place après 1945 à la faveur des Trente Glorieuses avaient été là de tout temps, alors que ce sont des systèmes fragiles, généreux, qui demandent malheureusement parfois à être partiellement révisés. Il faut faire parfois le deuil partiel de ce qui a été posé à l'époque où on ouvrait grand les vannes du financement et de la générosité et parfois de la gabegie d'État. Bon, mais voilà, je ne vais pas vous faire du Raymond Aron quand même.
Non, mais je voudrais quand même citer l'un de vos néologismes, parce qu'il m'a beaucoup fait rire et je le trouve assez éclairant.
Oui.
Et dans l'axe de ce que vous venez de dire, c'est celui de malrussite.
Malrussite. Ah ben la malrussite, ça c'est aussi un... Oui, la malrussite, c'est une sous-catégorie du syndrome Lafayette. C'est-à-dire, vous voyez bien que Malraux est très jeune, se porte vers les combats des autres. Alors parfois avec un peu de mythomanie. Enfin, il prétend avoir été à Canton dès 1925, en tout cas il est en Indochine Et où il crée avec son ami Chevasson et avec Lara Malraux un journal, qui est un journal anticolonialiste. Et puis, on sait son rôle dans la guerre d'Espagne. On sait son rôle aussi comme colonel Berger avec la brigade Alsace-Lorraine. Et évidemment, quand il écrit Les Antimémoires, c'est un livre totalement mondialiste en réalité. C'est-à-dire que le Malraux, c'est pas un livre qui se déroule tellement sur le territoire français. Les Antimémoires, c'est son voyage oriental des années 65-66. Et il va voir Mao, il va voir Nehru, il se promène à Singapour. Enfin voilà, c'est là aussi l'homme du grand vent, des grands vents.
Donc, mais le patriotisme français est un petit peu porté vers le grand large.
Donc Malraux cite. Ben, en principe, c'est ce que je vous disais, oui, c'est précisément, il y a cette prétention française, mais qui n'a pas été que néfaste à un universalisme. Alors oui, avec ce complexe de supériorité qui fait que la France s'est vue comme une lumière ou un porte-flambeau du monde. Mais en même temps, ce n'est pas tout à fait faux, parce que l'importance et l'impact durable de la Grande Révolution, l'importance d'une figure comme celle de Victor Hugo, par exemple, tout ce qu'il a synthétisé dans ses romans, tout ce qu'il a... Au fond, pourquoi est-ce qu'on connaît Notre-Dame de Paris à ce point? Certes, quand la flèche brûle, c'est une sorte de douleur, on peut dire, qui renvoie d'ailleurs non pas seulement à un lieu de culte, mais à un lieu de mémoire, qui prouve quand même que les Français, quand ça brûle, ont un certain souci patrimonial ou historique. Mais mondialement, c'était une cathédrale de pierre qui est devenue une cathédrale de mots, parce qu'un écrivain en a fait cette histoire qui a essaimé. Et le bossu Quasimodo et la belle Esmeralda, ça se retrouve jusque chez Walt Disney, finalement. Ça aussi, c'est français, au fond. C'est l'idée, quand même, et elle est rémanente, que les écrivains sont soit des conseillers du prince, soit des porte-flambeaux, soit en tout cas des hommes et des femmes qui sont là pour décrire, pour rendre compte. Et si vous voulez entendre, comprendre le XVIIe siècle, vous comprendrez beaucoup de choses, évidemment en lisant Molière ou en lisant Madame de Sévigné, qui finalement font foi, qui ont donné le juste tableau et la bonne empreinte de leur époque. Et le meilleur historien du règne de Louis XIV, c'est d'abord le duc de Saint-Simon, qui reste indépassé, mais justement, c'est un fresquiste littéraire. Donc, oui, nous sommes tributaires, dépositaires, héritiers de ça. Et je crois que ça se distoque, en effet. Mais il reste quand même dans la sorte d'archipel d'honneur littéraire dans le rapport que les Français ont avec leur pays et que certains de leurs dirigeants ont encore. C'est-à-dire, pour étudier le surmoi littéraire et son impact ou son importance chez les présidents de la Ve République. Alors c'est inégal, ça va et ça vient, mais voilà, on peut faire des repérages, des relevés ADN, et on verra qu'évidemment la transcendance du pouvoir, elle s'accompagne en France plus qu'ailleurs, probablement, de la maîtrise du verbe.
Sur ce surmoi littéraire, sans aucun doute, que nous soyons une nation ni littéraire, sans aucun doute, un des autres aspects intéressants, c'est votre volonté à vouloir anoblir la culture populaire.
Ah
votre livre est pétri de références à la culture populaire, le cinéma, la musique, mais j'entends la musique souvent dévalorisée ou considérée comme adolescente, le jazz qui a déjà conquis ses lettres de noblesse, mais aussi le rock et bien d'autres. C'est probablement une façon de faire aussi pour se réconcilier avec soi-même que d'accepter enfin de voir que ce n'est pas une chute que d'aimer cela, mais d'y voir le véritable intérêt et les lumières qu'il contient.
Ah bah, ça, pour moi, c'est ça qui a rendu le XXe siècle dont nous sortons quand même assez passionnant, parce que le cinéma, par exemple, évidemment, par définition, n'existe pas. Et vers 1895, il se crée comme un art forain. Le cinéma se projette dans les foires, dans les... Voilà. C'est un peu comme le guignol de ma ville natale de Lyon, dont on dit qu'il amuse les enfants et les gens d'esprit. Mais justement, peu à peu, les gens d'esprit sont venus au cinéma. C'est assez étonnant quand on y pense, de voir que depuis 120 ans à peu près, s'est créé un art qui est devenu un art majeur, qui a sa grammaire, qui est en dialogue précisément avec la littérature, avec la musique, avec la peinture. C'est très fascinant et d'être contemporain de cette fabrication. Pour la musique, c'est pareil, c'est-à-dire, Ortega et Gasset disaient « je suis moi et ma circonstance ». Alors, on peut oblitérer sa circonstance, mais si vous voulez, quelqu'un qui serait né en 1920, et, en 1900, mettons, en 1900, et qui entre 1920 et 1960 aurait raté le jazz, c'est un sourd. Même Stravinsky, même Ravel, enfin, je veux dire, les plus grands compositeurs dits classiques entendent très vite le jazz. Bon, bah, s'agissant du rock, c'est pareil, je suis moi et ma circonstance. Donc, quand on a 15 ans en 1972, et qu'il est en train de se produire quand même une sorte de révolution musicale totalement inédite, bah, moi j'ai entendu ça, oui. Je l'ai aimé, d'abord par une sorte d'intensité première, mais aussi... parce que, évidemment, le rock, ça a à voir avec beaucoup de choses. Ça a à voir avec le théâtre, ça a à voir avec les mythologies, ça a à voir avec la construction d'un récit et d'une vie, ça a à voir avec l'héroïsation d'artistes, c'est-à-dire du musicien orphique qui ne joue pas de la lyre, mais joue de la guitare électrique, parce que c'est populaire et mondial. Là, j'étais venu, je crois, vous parler il y a un an et demi d'un petit livre sur Michael Jackson que j'avais écrit, parce que ça ne me semble pas indigne, ou alors c'est mépriser ce qu'on appelle la culture de masse. Et il y a toujours des raisons pour lesquelles une époque choisit ses icônes. Donc c'est très intéressant d'essayer de comprendre. Voilà, et puis, bon, je ne fais pas ça, alors il n'y a pas d'esprit démagogique, il y a juste du plaisir. Mais enfin, on dit assez que les intellectuels sont une secte enfermée dans leur tour d'ivoire. Moi, j'ai la chance, de, si je vais dans un stade, de vibrer un concert des Rolling Stones, à peu près comme tous ceux qui sont là, d'où qu'ils viennent. Donc, il y a aussi il faudrait penser ça en termes démocratiques. Hein, un sociologue qui s'appelle Paul Lyonnais fait un livre, Jeux, modes et masses, très intéressant, il y a déjà une vingtaine d'années, où il prenait en charge, il prenait en compte ce qui se passe. Il y a une chanson de Bob Dylan, il dit « Something is happening there, Mr. Jones ». Quelque chose est en train de se passer, et vous, Monsieur Durand, vous ne savez pas trop ce que c'est. Et ça s'adresse vers 1965 à l'Américain un peu épais. Et, bon, bah, quand quelque chose se passe, il vaut mieux l'entendre.
Donc vous n'êtes pas de ceux que cela choque de voir Bob Dylan, justement,
mais pas du tout.
Obtenir le prix Nobel.
Mais pas du tout. C'était très curieux parce que le prix Nobel, il a été donné à des poètes au fil des années. Par exemple, je crois qu'Odysseus et Lytis, ce progrès, poème poète grec, obtient le Nobel. Eh bien, Dylan, alors lui, il a la mémoire incorporée. Donc, il a lu William Blake, il a lu les symbolistes français, il a lu Walt Whitman et il est contemporain de Ginsberg. Donc, c'est une sorte de compression, précisément, comme une compression de César. C'est une musique du présent qui incorpore plusieurs passés. Ça m'intéresse toujours. Et il a l'avantage, en sus de ce qu'il écrit, les textes de Dylan sont souvent et quand même très, très travaillés et pas loin du... Enfin, très inspirés par le symbolisme et le surréalisme français. Et en plus, il a la lyre d'Orphée. Alors, s'il y avait un prix Nobel de la musique, on aurait dû lui donner aussi un prix Nobel de musique. Donc pour moi, c'est un a fortiori. Dylan, c'est un vrai poète, c'est une sorte d'arpenteur, de cartographe vraiment de l'espace des cultures américaines hein, et des cultures populaires et des musiques américaines. Tout ça étant transcendé par une vraie culture populaire. Et dernière chose, moi, je me souviens, en 70, j'avais 13 ans, j'avais déjà un professeur d'anglais qui nous faisait apprendre des chansons, au moins une chanson de Bob Dylan. Donc, dès 1970, il était catégorisé comme une des icônes de la mythologie américaine, avec Kennedy, avec Warhol, avec Mohamed Ali. Donc qu'on attende 40 ans supplémentaires pour donner le prix Nobel, c'est presque un peu tard.
Oui, alors justement, est-ce que cet anoblissement des figures de proue de la culture populaire ne tient pas simplement à un effet de nostalgie et, allez, allons dans la provocation, au fait que ceux qui ont été bercés dans leur jeunesse, leur adolescence, par ces chansons-là, ont désormais le pouvoir culturel et donc auraient une tendance naturelle à anoblir ces figures. Finalement, est-ce que ce n'est pas la patine qui les ennoblit tout ?
Alors, il y a deux choses. En effet, il peut y avoir une tendance à la gentrification de ce dont on a été contemporain. Mais en même temps, est-ce qu'on va dénier un talent intrinsèque à ces immenses musiciens ? Parce que ce sont des grands musiciens. C'est comme la bande dessinée, au fond, qui a accédé peu à peu, à partir des années 60, on peut dire, même si elle existait bien avant, à la dignité d'un art, hein, du 9e art. Donc il y a des formes émergentes, il faut un certain temps pour les reconnaître. Mais en même temps, elles ne sont pas d'un talent moindre que d'autres formes. Et deuxièmement, alors, oui, le côté générationnel, c'est intéressant, parce que si je prends le rock, par exemple, l'expérience est en cours. Si vous voulez, Paul McCartney, les Rolling Stones, Bob Dylan, Eric Clapton jouent encore. Bon, ils ont 75 ans maintenant. Donc, ça fait 60 ans, 55 ans qu'ils sont sur la route. Et pour des gens de mon âge qui ont 15 ans de moins, 10 ou 15 ans de moins, au fond, c'est le sentiment sur les décennies d'avoir été accompagné, d'avoir encore un toit au-dessus de la tête. Je ne vois pas le ciel encore tout à fait à travers les tuiles disjointes du toit. Donc ça compte aussi. Qui a été votre contemporain ? Je prends un exemple littéraire, parce que ça sera moins hérétique que parler de rock. Mais par exemple, je crois que je lis Patrick Modiano depuis 1972, peut-être. On est en 2020, il a publié un roman l'année dernière, et si je le dis en anglais, ça serait des travel companions, ça serait vraiment des compagnons avec lesquels on a fait le voyage. C'est vrai de Scorsese, par exemple. Moi, j'ai la plus grande admiration pour ce cinéaste, et j'ai dû voir Taxi Driver en 1975 ou 16. Et j'ai vu il y a 3 semaines ou 2 mois The Irishman. Donc ça compte aussi, les contemporains capitaux, comme disait Gide.
C'est ce qui fait d'une géniale idée probablement une des figures marquantes de ces décennies, et qui tient une grande place dans l'ouvrage.
Oui, alors après, évidemment, quand vos compagnons de voyage meurent, ça donne des requiem. Donc je sens que je vais tourner au croque-mort. Ça, l'obituaire, l'éloge funèbre, c'est un genre, il va y avoir des bossuets branchés sur secteur électrique. Mais Johnny Hallyday, oui, alors c'est un peu, c'est vraiment une vraie mythologie populaire. Si vous partez de ses débuts, dans les années 50, je crois qu'il a, le règne du roi Johnny couvre le 9 présidences de la République française. Donc, les présidents passent et sont soumis à l'élection. Johnny a été porté par cette ferveur. Et évidemment, il y a un côté jukebox, il y a un côté picon grenadine, il y a un côté français qui veut jouer à l'Amérique. Il y a aussi une force considérable, parce que moi, je l'ai vu une fois au Stade de France, il y a 80 000 personnes. Je peux vous dire qu'il n'était pas en deçà de ce que, justement, les Rolling Stones ou Paul McCartney peuvent donner dans un espace. Donc, c'est pas rien non plus en termes d'énergie. C'est pas un usurpateur.
Je suis très heureux que vous le disiez, parce que lorsque l'on clame son amour des Rolling Stones ou de Bob Dylan, cela reste chic et acceptable. Mais lorsqu'on vient défendre Johnny Hallyday, on mouille davantage sa chemise et on s'aventure davantage dans la culture populaire française.
Bien sûr, bien sûr.
Et on se met plus en risque. Donc, merci pour
oui,
lui.
Oui, parce que en effet, à bien des égards, c'est un copieur, c'est un ersatz, c'est un écho ou un produit dérivé de ce qui s'est passé outre-Atlantique. Et c'est un... Moi, je vais vous dire, je l'ai interrogé une fois pour un journal, et Daniel Rondeau, dont nous parlions, qui est son héros, en quelque sorte, à UT, qui a écrit plusieurs livres, m'avait recommandé à Johnny Hallyday. Et j'arrive dans le studio de la Plaine Saint-Denis. Il m'accueille en disant « Ah, bonjour, vous êtes un ami à Daniel. » Eh bien, pour cette faute de français, je l'ai aimé. Voilà, parce que il y avait quelque chose d'authentique, de pas trafiqué jusque dans la faute de grammaire. Voilà. On peut aimer les choses pour... moi, j'aime beaucoup... on peut aimer les gens pour leurs failles plutôt que pour leur supériorité. C'est pour moi, c'est une règle. Implicite, quoi. Voilà. Il y a toujours une tendresse pour ce qui manque un peu à sa place, pour ce qui est pour l'imperfection, pour le brouillonné, l'inachevé, parce que c'est la vie des hommes et des femmes.
Écoutez, on ne peut mieux décrire votre ouvrage. Donc j'invite tous nos auditeurs qui ont dû être sensibles à ces paroles, puisque vous êtes échappé de ma tendance à pousser nos invités à conceptualiser. Vous êtes échappé dans cette dernière ligne droite avec ces mots pleins de sensibilité. Il faut poursuivre l'émotion que ces mots procurent en se plongeant dans votre carnet de balles. Et bien entendu, ultime question, bien entendu, le cinquième est déjà en cours de préparation.
Si Dieu me prête vie, il est mécaniquement en préparation, parce qu'il y a déjà des ensembles de textes, d'articles, qui sont en train... Enfin, il faut que ça sédimente. Donc, dans 6 ans, il y aura, j'espère, un carnet de balles 5. Mais en attendant, ne glissez pas sur le parquet.
Merci beaucoup.
Merci à vous.